Bonjour la Terre au Carré, c'est Delphine du Jura. Je voulais pousser un coup de gueule de manière générale. J'ai écouté pas mal de vos émissions. Je ne vote pas écolo, loin de là, mais je suis d'accord pour faire effectivement des efforts collectivement, pour faire évoluer les choses et faire évoluer les mentalités. Il y a des choses qui me révoltent. Les vaches hublots, nous humains, nous nous permettons, au nom de la science, de leur faire endurer cette pratique? C'est insoutenable. Ces oiseaux que l'on plombe de plomb, au nom de la chasse et du plaisir de l'humain, nous n'avons pas, nous, honte, nous, humains, ces arbres que l'on abat pour créer une autre richesse financière. Oui, il y a besoin de cette richesse financière, mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte si tout le monde s'y met. Toute cette souffrance animale me révolte. L'homme est inhumain, ignoble, dans toute sa splendeur. Au nom de quoi, nous, l'humain, détruisons tout. Merci à vous.
Bonjour la Terre au Carré, c'est François de Niort. Donc merci pour vos émissions. Je tenais à vous faire part d'une initiative que je viens de prendre en prenant tous mes vendredis, que j'appelle mes vendredis écologiques. Donc, je suis cadre et j'ai décidé de prendre un temps partiel, ne plus travailler le vendredi, pour donner ce temps au monde associatif et notamment aux associations qui œuvrent pour la cause écologique. Donc, j'encourage tous les cadres qui peuvent bien sûr se le permettre à faire de même. Donc, vous pouvez encourager le mouvement en allant sur LinkedIn et en recherchant Vendredi écologique. Merci, bravo encore pour vos émissions. Au revoir.
C'est Michel, à Beaulieu-sur-Dordogne, en Corrèze. C'est pour vous dire que des fois, il y a des villages où il y a presque la moitié des maisons qui sont vides et que les gens viennent juste un mois par an. En une situation comme ça, j'ai entendu dire par des Allemands qu'en Allemagne, les propriétaires, ils prennent une grosse taxe, là. Enfin, si on compte ça plusieurs années de suite. Bon, voilà, ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Bonjour, je suis Christiane d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne. Sur votre émission, là, vous dites que la Terre est une réserve de biodiversité, qu'elle emmagasine du carbone. Oui, mais surtout, sa principale fonction est d'être nourricière et des terres très fertiles sur Terre, finalement, il n'y en a plus beaucoup. Elles disparaissent, elles sont très recherchées. Donc, arrêtons pour cette raison aussi l'artificialisation des sols agricoles. Voilà.
Et merci beaucoup pour vos messages. Continuez à réagir à nos émissions comme celle d'hier, consacrée donc à l'étalement urbain et aux maisons individuelles, en nous laissant donc vos missives au 01 56 40 45 45. Et puis, on voulait vous annoncer une bonne nouvelle, puisque ça y est, nous allons revenir dans Les Pyrénées. Les dates sont fixées.
Ce sera dans un mois pile, ouais. Les 17 et 18 mars. Jeudi 17 et vendredi 18 mars.
Voilà, le Covid nous a un peu contrariés. Mais on va revenir donc pour deux jours, terminer notre saison d'hiver à la rencontre des bergers et des vautours. Donc amis des Pyrénées, on sera à nouveau donc chez vous très bientôt. Il y a quelques jours, dans une tribune de nos confrères de France Info, 1400 scientifiques appelaient les candidats à l'élection présidentielle, mais aussi les médias d'ailleurs, à sortir des discours de l'inaction concernant la crise environnementale. À quelques semaines de cette élection cruciale, les signataires de cette tribune pointaient du doigt l'absence de débat sur ces questions décisives pour notre avenir. Et en ce début de 21e siècle, les bouleversements en cours concernant le climat ou la biodiversité sont pourtant largement aujourd'hui reconnus. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les intérêts de la nature ont du mal à être représentés dans la vie politique, d'où l'importance de continuer donc à débattre sur ces questions qui organisent justement la question écologique, et c'est l'objet de votre livre Pierre Charbonnier qui paraît aux presses de Sciences Po. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe chercheur au Centre d'études européennes et de politique comparée, enseignant donc à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de l'histoire des rapports entre nature et société dans les sociétés modernes, et de l'histoire il y en a beaucoup dans votre ouvrage, une histoire dans laquelle la nature et notre espèce se confondent souvent, et ce sera l'occasion de comprendre avec vous quelles ont été les premières transformations justement de l'environnement, quels sont les rapports qu'on entretient avec la nature depuis l'ère industrielle et comment aujourd'hui pourrait émerger un mode de développement plus conforme aux limites planétaires. On se retrouve dans un instant avec les questions, les messages des auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux également, l'appli France Inter à votre disposition pour laisser vos messages vocaux. Camille, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert à 14h30.
Je n'ai pas de nom de famille aujourd'hui.
Non, Camille Cronier, bonjour.
Salut. Alors un petit tuto aujourd'hui, tuto vague scélérate, ces monstres des mers totalement imprévisibles.
Allez, à tout à l'heure, voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Raphaël Rousseau.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
sur France Inter.
Pierre Charbonnier, vous êtes notre invité. Aujourd'hui sort donc cet ouvrage Culture écologique que vous signez donc aux presses de Sciences Po et vous êtes notre invité pendant une heure pour en parler. Pourquoi ce terme de culture écologique? Qu'est-ce qu'il raconte finalement au lecteur qui tiendrait votre livre entre les mains et qui aurait envie d'y plonger?
Alors d'abord, c'est un effet un petit peu contingent d'une collection hein, qui se développe aux presses de Sciences Po, parce que mon collègue Dominique Cardon a publié il y a quelques années Culture numérique.
Oui, on l'avait invité d'ailleurs.
Très bien, et donc il y a un parallèle en fait entre ces deux livres. C'est des livres qui traitent de manière synthétique, didactique, d'une question transversale qu'animent les transformations sociales, politiques, contemporaines, mais des questions qui font peut-être pas encore tout à fait l'objet de synthèse, bon. Donc j'ai essayé de faire ça. Mais culture écologique, ça, on peut lui donner aussi un sens plus positif, un petit peu moins contingent. On pourrait dire que peut-être, dans les débats sociaux, politiques, peut-être que d'une certaine manière, on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on on s'inquiète, on s'angoisse autour de la question du climat, de la biodiversité, on se demande comment ça peut être traduit dans des actes politiques, dans des mobilisations, sans vraiment toujours avoir les moyens de comprendre dans quelle mesure ces questions-là sont le produit d'une histoire plus longue, sont liées au développement de l'État, des structures économiques, des relations internationales, des formes, disons, des valeurs partagées socialement. Et donc j'ai essayé dans ce livre de tirer un bilan partiel de travaux très larges qui sont proposés par l'histoire environnementale, par la sociologie des sciences, par l'anthropologie de la nature, et essayer de montrer que nous avons besoin donc d'une culture écologique pour comprendre ce qui est en train de nous arriver comme le résultat de quelque chose qui se déploie sur une dynamique historique très longue, très lente, et qui n'est pas juste une sorte d'événement, de coup de théâtre qui, comme ça, nous arrive sur le tard.
Alors justement, vous convoquez l'histoire, mais depuis très longtemps. Hein. C'est une temporalité très longue, puisque vous allez jusqu'à l'émergence d'Homo sapiens, entre 200 000 et 300 000 ans finalement, jusqu'à, en passant évidemment par la révolution néolithique et jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi justement est-ce qu'il faut faire ce long voyage historique pour parler de la crise écologique aujourd'hui? Alors, vous l'avez dit un petit peu, mais quand même, c'est important de parler vraiment des racines de l'homme?
Oui, c'est important à plusieurs égards. La première chose, c'est que les disciplines de l'archéologie, de toutes ces disciplines de l'histoire profonde, ont considérablement évolué ces dernières années, ces dernières décennies. Et ce qui est en train de se jouer, en fait, c'est l'effacement d'une conception très binaire du processus de construction culturelle de l'humanité, qui, jusque assez récemment, passait par un dualisme entre, d'un côté, des sociétés qui trouve ce dont elle subsiste, qui le collecte, qui le chasse, et des sociétés qui le produisent. Il y avait cette grande dualité, en gros les chasseurs-cueilleurs, qui plus ou moins implicitement étaient considérés comme inférieurs aux autres, ou alors qui étaient glorifiés comme étant plus proches de la nature, mais en fait c'est pas si loin que ça. Et puis de l'autre côté, les producteurs, c'est nous, entre guillemets. Et en fait, l'archéologie nous montre que ce grand fossé n'est pas aussi net que ça, qu'il y a beaucoup de formes intermédiaires, qu'elles occupent une période historique qui se déploie sur plusieurs milliers d'années, donc c'est des temporalités vraiment très très longues, et qu'une bonne partie des formes institutionnelles, des formes symboliques qui sont encore les nôtres aujourd'hui, en fait sont l'héritage de ces formes intermédiaires, plutôt que d'un paradigme productif, vraiment clair et net, où en gros on ne chasse plus, on vit dans des villes, on a des états, des choses comme ça.
Alors vous faites des liens d'ailleurs entre des périodes pourtant très très voilà, lointaines, entre par exemple les premiers hommes qui ont fabriqué les premiers outils, les premiers bifaces par exemple, et ceux qui sont capables aujourd'hui d'ériger le barrage des Trois Gorges en Chine.
Oui.
Il y a un lien technique qui subsiste.
Il y a effectivement cette idée des grands lignages techniques, mais l'autre raison pour laquelle c'est important de revenir sur des éléments, disons, d'anthropologie, d'archéologie, sur le processus de domestication, c'est qu'en fait ces questions-là ont animé depuis très longtemps la construction de notre conscience politique collective. Généralement, l'exemple plus connu, que je reprends un peu dans le livre, c'est Rousseau. Rousseau, dans le discours sur l'origine des inégalités, dit, voilà, au début, il y avait l'état de nature, l'état primitif, puis un jour, on commence à mettre des piquets autour de notre champ, on définit la propriété, et là, on rentre dans un autre régime politique. Rousseau dit, bon, je l'aime pas trop, c'est mauvais, mais on peut pas faire autrement, donc apprenons à domestiquer la domestication, en quelque sorte. Donc, en fait, il y a énormément de repères culturels, politiques, institutionnels, qui sont en fait dérivés de ce débat sur ce qu'est ou ce que serait l'humanité originaire. Donc quand on change le visage de cette humanité, bon, qui n'a rien de passé, mais pas originaire, ça ne veut pas dire grand-chose, forcément, on change aussi un petit peu les coordonnées du débat politique, et en l'occurrence de la politique en tant que c'est un rapport collectif au milieu, à l'environnement, ouais, à la nature.
Justement, la politique, je le disais tout à l'heure en exergue, là, c'est que le débat justement sur l'écologie n'arrive pas à émerger du tout dans le discours des candidats à l'élection présidentielle.
Ni dans les médias. Hein,
ni dans les médias d'ailleurs, on a aussi notre part là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un vrai problème démocratique aujourd'hui face à l'enjeu qui est devant nous?
Alors, c'est vrai que c'est un problème démocratique, mais justement, peut-être que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, quand je disais, on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire, on s'attend à ce que l'organisation sociale, l'organisation économique intègre des contraintes liées à la crise climatique, liées à la crise de la biodiversité. Le problème, c'est que ce que nous n'avons pas, c'est la masse critique de population qui est capable en fait, d'interpréter ses propres formes de souffrance, de domination, d'aliénation, ses insatisfactions, en référence au rapport qu'elle entretient avec le milieu, en fait, et indirectement, avec la consommation, avec l'énergie, avec toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça.
C'est-à-dire qu'ils ont, pardon, je vous interromps, mais ils n'ont pas conscience. Enfin, on n'a pas conscience de ce que souvent on appelle la big picture, quoi. Enfin, la situation très globale, parce que peut-être aussi c'est totalement vertigineux. Si on remonte, si on fait le fil comme ça de la situation écologique, en fait, on a l'impression que c'est partout sous nos pieds, dans tout ce qui nous entoure où qu'on vive.
Oui, alors bon, on n'a pas nécessairement besoin de lire des traités complets d'archéologie pour être de bons citoyens impliqués, hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un porte-à-faux entre la conception ordinaire qu'on se fait de ce qu'est une question politique et ce que nous oblige à penser la crise climatique, la crise écologique. Généralement, on considère qu'on appartient à des communautés réunies par une unité de destin historique liée à la construction de l'État, à la construction de la nation, à un ensemble de règles juridiques, culturelles, et puis quand même massivement dans les démocraties sociales, qui est censée être la nôtre, à la façon dont on redistribue la richesse. Tout ça est très vrai, très juste. Le problème, c'est qu'on est aussi les produits d'une histoire qui est une histoire de transformation du milieu. L'État, c'est pas juste quelque chose qui organise la coexistence entre vous et moi, c'est aussi quelque chose qui organise la coexistence entre nous tous et des territoires et des ressources et des subsistances. De la même manière, les institutions économiques qui régulent, encadrent, disciplinent le capitalisme, le profit, sont aussi des institutions qui gère en fait qu'est-ce que c'est qu'une ressource, comment elle circule entre nous, quelle valeur on lui donne. Et donc si aujourd'hui on dit le renouveau de l'approfondissement démocratique et la possibilité d'avoir un avenir partagé, durable, passe par l'intégration de régulations très, très massives de notre rapport collectif à l'environnement, et pas juste de notre rapport collectif à nous-mêmes, si on peut dire, en tant que communauté politique d'humains, ben ça, c'est, moi je suis pas très étonné que ça ne s'impose pas dans la campagne, parce que c'est un travail de redéfinition de l'idée même qu'on se fait du politique. Alors il y a plein de possibilités pour ouvrir l'espace du débat de la politique à ces questions-là. Parmi ces possibilités, l'une d'elles serait de répandre parmi nous, parmi la population, ce qu'on pourrait appeler une culture écologique, c'est-à-dire l'idée qu'on s'identifie collectivement à l'histoire des rapports collectifs au milieu.
En tout cas, il y a une centaine d'organisations et de personnalités qui lancent aujourd'hui, justement, cette idée. Pas de climat, pas de mandat. C'est justement pour replacer les enjeux environnementaux au cœur du débat pour l'élection présidentielle. Ça vous paraît intéressant, cette initiative?
C'est très intéressant. Toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là sont intéressantes, mais peut-être que ça s'adresse encore un petit peu trop, on peut dire, aux élites dirigeantes. C'est-à-dire, qu'allez-vous faire pour embrasser et régler le problème? Peut-être que l'autre partie du problème, dont on n'entend peut-être pas suffisamment parler, c'est faire un effort de, on pourrait dire, j'allais dire d'éducation populaire, mais ça fait un peu
paternaliste. Mais il y a un débat qui va être organisé sur Twitch, hein, logiquement, le 13 mars, donc c'est aussi s'ouvrir à un public qui n'a pas forcément l'habitude forcément de discuter de ces questions-là.
D'accord, donc dans ce cas, moi je pense qu'il serait intéressant, c'est que tous les segments du corps social qui se sentent lésés, laissés de côté, humiliés, etc., puissent avoir l'opportunité de lier ces expériences-là aux problèmes écologiques, climatiques. Comment on se chauffe, comment on circule, où on habite, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on achète.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat qui compte.
Ça ne sert à rien de culpabiliser l'expression de pouvoir d'achat, mais en tout cas, essayer de reconstruire des liens, des passerelles solides entre les expériences sociales, les expériences économiques et ces grandes interdépendances, effectivement, comme vous dites, big picture, ces grandes interdépendances avec des ressources, avec des territoires. Et aujourd'hui, toutes ces questions-là nous saisissent sans qu'on le contrôle vraiment. Le prix du gaz, la relation avec la Russie, le processus de construction européenne, toutes les grandes rivalités douanières, commerciales, tout ça s'est gorgé en fait de problèmes écologiques. Mais c'est très difficile, objectivement difficile, de faire le lien.
Pierre Charbonnier, vous êtes notre invité pour essayer de faire émerger cette culture écologique. C'est en tout cas une des ambitions peut-être de votre livre qui paraît aujourd'hui même. Et vous allez répondre au message des auditrices et des auditeurs.
Ego, c'est mérité. Si je suis dans le périmètre, je les regarde en face. Je leur dis la vérité. J'ai bu du Henny, babe. On m'a dit R.I.P. J'ai un truc noir dans le casque. Ego s'est vérifié. On est que de passage. Mais faire aux ambiances dans le classe A. On croisait des ripoux. Équipe de skin dans le bazar. On est que de passage. Mais si ça arrive dans le Viano, dans la zone avec Mehdi, je fais de la guitare, de la basse et du piano. Quand personne ne peut soigner tes problèmes, trop souvent déçu par les mêmes personnes. C'est devenu dur avec le procès. C'est devenu compliqué de se faire confiance. On n'est que de passage. On n'est que de passage. Pourquoi tu me bats? Pourquoi tu me bats? On n'est que de passage. On n'est que de passage. Pourquoi tu me bats? Pourquoi tu me bats? On n'est que de passage. Viens, on parle un peu de toi, on va quelque part. Sauf que t'es pas forcément bien pour toi, t'as une bête de vibe. Y'a du monde, mais je vois personne qui sourit vraiment dans le club. J'ai du gin et un glaçon qui fond dans le cup. J'ai des idées, mais j'ai pas assez de sens. Si t'es avec moi, on monte et on fait notre cash. Ou bien on décolle l'air, on s'envole après demain. Baby maman, faut s'accrocher dans les deux cas. Parce que là je suis de passage en balle et après je trace. Quand personne ne peut soigner tes problèmes, trop souvent déçu par les mêmes personnes. T'es devenu dur avec le procès. C'est devenu compliqué de se faire confiance. On n'est que de passage. On n'est que de passage. Pourquoi tu me bats? Pourquoi tu me bats? On n'est que de passage. On n'est que de passage. Pourquoi tu me bats? Pourquoi tu me bats? On n'est que de passage, on n'est que de passage. Pourquoi tu me bats? Pourquoi tu me bats? On n'est que de passage, on n'est que de passage. Pourquoi tu me bats? Pourquoi tu me bats?
Passage Sopico sur Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Pierre Charbonnier, philosophe avec culture écologique, il est avec nous pour en parler. À quel moment est-ce qu'on peut dire finalement que l'espèce humaine est intervenue dans ce que vous dites, dans la sphère des interactions écologiques, au point d'exercer vraiment des pressions et des altérations du milieu? Est-ce qu'on arrive à l'identifier clairement? Est-ce que ça fait consensus, ça, ou pas?
Bah, c'est difficile de répondre à une question comme ça, parce que depuis son avènement évolutif, l'espèce humaine est, on la décrit parfois comme un ingénieur écologique, c'est-à-dire elle a un pouvoir d'intervention dans le milieu qui l'entoure, à travers les outils, à travers le feu, à travers le réarrangement des espèces, dans les jardins horticoles, puis après, bien évidemment, à plus grande échelle. Donc c'est assez difficile, ça dépend où on place le curseur, en fait. Aujourd'hui, par exemple, il y a un grand débat sur ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le moment où, collectivement, disons, les segments les plus productivistes de l'humanité finissent par avoir un impact...
Sur la géologie,
non, hein. Non pas sur leur milieu voisin, mais sur les grandes régulations systémiques précisément du système Terre. Donc, vous voyez, est-ce qu'on dit l'intervention de l'humain dans le milieu, c'est... Mettons, il fait un essar, il brûle une partie de prairie pour y développer des activités pastorales, par exemple. Ou c'est la bombe atomique et la perturbation massive du cycle de l'azote, du carbone. Vous voyez. Donc, mais en tout cas, on a ce pouvoir d'ingénierie écologique, comme vous disiez tout à l'heure, qui va du biface
jusqu'aux trois gorges, ce grand barrage chinois.
C'est ça, hein, que je voulais montrer à travers ces deux images. Et cette capacité anthropotechnique, c'est aussi une responsabilité.
Alors justement, une responsabilité, le fait de transformer les milieux va aussi de pair avec une éthique de la responsabilité envers la nature. C'est ce que dit le philosophe Baptiste Morisot. Il appelle ça un éco-paternalisme. On va l'écouter. Il évoquait la question de la place que l'on peut donner aux autres vivants dans la grande librairie en mai 2020.
Moi, je pense que l'égalitarisme, avec les autres animaux, avec les abeilles ou avec les autres mammifères, provient d'un bon problème, mais constitue une mauvaise solution. Parce qu'il ne fait pas justice à l'extraordinaire altérité que constitue la myriade de formes de vie avec lesquelles nous cohabitons. Quelle égalité penser entre moi et chacune des millions de bactéries qui peuplent mon tube digestif ? L'égalité, à mon sens, c'est pas le bon problème parce qu'elle consiste à donner à chacun ce qu'on voudrait pour nous, alors que le grand enjeu aujourd'hui, c'est d'ajuster les égards à ce qui est nécessaire pour eux. Donc vous demandiez qu'est-ce qu'il faut faire, ne serait-ce que pour les pollinisateurs, il faut les laisser vivre, il faut leur permettre de reconstituer les dynamiques écologiques qu'ils ont activées depuis que l'évolution a inventé ce jeu extraordinaire entre les plantes à fleurs d'un côté et les pollinisateurs de l'autre. Il faut inventer des égards ajustés à leur forme de vie, à leurs intérêts propres en tant qu'ils constituent un acteur absolument central du monde commun.
Voilà le philosophe Baptiste Morisot. Pierre Charbonnier, ça c'est vraiment la question qui est au cœur finalement de cette crise écologique aujourd'hui. Hein. C'est nos liens avec les autres vivants et nos responsabilités envers eux aussi.
Alors c'est vrai qu'il y a à la fois une similitude et une différence entre ma manière d'aborder le problème et ce que développe Baptiste Morisot dans son propre travail. Lui est très intéressé par le vivant parce que c'est quelqu'un dont la spécialité d'origine est la théorie de l'évolution, le darwinisme, en fait la philosophie des sciences du vivant. Moi, je pratique plutôt la philosophie des sciences sociales, m'intéresse à l'anthropologie, la sociologie. Et du coup, pour moi, le problème se centre pas autour du problème du vivant, mais plus largement, enfin, si je dis plus largement, Morisot va me le reprocher, mais peut-être plus largement quand même, à la question des territoires, des ressources, y compris dans ce qu'ils ont de non-vivant. Le pétrole, c'est pas vivant, la composition chimique de l'atmosphère, c'est lié au vivant, mais c'est pas en soi vivant. Par contre, Morisot soulève un point effectivement absolument central, c'est que la philosophie morale de l'environnement s'est complètement plantée pendant des décennies en pensant que le problème racine de la crise écologique, c'était ce qu'on appelle parfois l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'idée que les humains se réservent pour eux la considération morale, on peut dire l'intersubjectivité, et relèguent tout ce qui n'est pas humain dans un statut d'objet avec lequel on peut avoir un rapport instrumental.
À son service, quoi.
Voilà. Mais en fait, cette bipartition entre être de considération morale, ça c'est nous les humains, et objet d'usage fonctionnel, économique, en fait, cette bipartition, elle n'est pas bonne du tout. Précisément parce que la façon dont sont construites nos communautés politiques est intimement liée à la façon dont on préconise des usages justes et injustes de la terre, des ressources, de la même manière que d'autrui. On a toujours eu ce que certains historiens appellent de la réflexivité environnementale. On s'est toujours posé des questions sur ce qu'il est bon ou pas bon de faire d'une terre, d'une ressource, d'une forêt, d'un océan, d'une rivière, d'un composé chimique. Le problème est de savoir comment on règle politiquement, précisément, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire de toutes ces choses et quel impact ça a sur nos formes d'organisation sociale, sur la hiérarchie des pouvoirs, sur toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que Morisot a entièrement raison de dire que cette espèce d'idéal complètement abstrait d'égalité entre les humains et les non-humains,
c'est juste regarder les choses à hauteur d'homme, quoi, finalement. Hein.
Voilà, ni les bactéries, ni même les dauphins n'ont jamais demandé à se faire reconnaître des droits civiques ou des choses comme ça.
Vous avez employé le terme de crise écologique. Est-ce qu'il vous semble que ce terme traduit le mieux l'époque que nous vivons, au fond ?
Alors, c'est vrai qu'il y a des collègues, des auteurs qui refusent de parler de crise parce que ça voudrait dire que c'est passager.
Alors que d'autres le revendiquent pleinement, ce terme.
C'est, on peut toujours critiquer les termes. Moi, je continue à le parler, d'abord parce que c'est une manière de parler comme tout le monde, donc ça me pose pas de soucis particuliers, mais surtout parce que ça fait surgir une autre signification de la notion de crise, c'est que c'est une épreuve, en fait. C'est quelque chose auquel nous sommes confrontés et qui nous oblige à revisiter ce que nous sommes, comment on pense, comment on s'organise, comment on envisage la domination, toutes ces choses-là. Et un autre aspect de la crise, qui est absolument essentiel, c'est qui on considère comme étant socialement habilité à tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire, il y a des acteurs qui se lèvent dans la société en disant « il y a une crise ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas n'importe qui le dit. Il y a des activistes, des savants, certaines sphères politiques.
Mais les citoyens aussi le disent.
Certains citoyens, de plus en plus. Mais dire qu'il y a crise, vous voyez, c'est déjà un rapport social. Il y a des gens qui disent « non, il n'y a pas de crise ». Ou les gens qui disent « ouais, il y a une crise, mais j'ai l'impression... »
Et dire qu'il y a une crise, ça implique aussi de donner des solutions, quand même.
On contracte une responsabilité quand on le fait. Alors, c'est clairement le cas des gens qui pratiquent le même métier que moi, qui sont enseignants à l'université, pas seulement d'ailleurs, dans le secondaire aussi. Donc, vous voyez, dire qu'il y a crise, c'est déjà un acte politique important.
Et alors, justement, Anne nous écrit, le fond du problème, selon elle, c'est que les évolutions constatées très rapides à l'échelle de la vie sur Terre sont très lentes à l'échelle du temps de la vie humaine. Sur cet écart se fonde une conviction de type « tout ceci est extrêmement compliqué et après nous le déluge ». De nombreuses cultures sont mortes dans le passé pour cette raison. C'est-à-dire, Pierre Charbonnier, qu'en fait, on se dit « oui, on est conscient que, mais comme d'habitude, on a l'impression que ce sera dans très longtemps et que donc, ça va passer, des solutions vont être trouvées et on ne prend pas la mesure de la situation ? »
Alors, il y a deux choses dans cette question. C'est vrai que d'un côté, il y a un constat qui est juste, c'est-à-dire qu'une des caractéristiques précisément de cette crise, c'est que c'est la conflagration entre deux régimes de temporalité qu'on pensait être complètement différents. La temporalité de la planète, de l'évolution, et puis la temporalité de l'action politique, de l'histoire en fait. C'est ce qu'avait très bien montré il y a quelques années un collègue historien indien qui s'appelle Dipesh Chakrabarti dans une série de textes qui sont devenus très connus et que je discute un petit peu dans le livre. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème-là de mélange, de rencontre entre deux trajectoires historiques qu'on pensait appartenir à des chronologies vraiment qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et puis il y a l'autre problème, c'est on peut dire celui de la construction sociale du temps. Par exemple, un point hyper important, c'est, vous savez, toute la politique des objectifs avec des dates. Décarbonation à horizon 2050. Net zéro 2050.
Neutralité carbone, oui.
C'est-à-dire que ça imprime dans la société l'idée qu'on se prépare maintenant pour un problème futur, et d'ailleurs qu'on réserve à l'avenir la capacité de résoudre des problèmes mieux qu'on ne pourrait le faire maintenant. Vous voyez,
oui, donc on fait pas maintenant, quoi.
Il y a tout ce rapport, effectivement, de remettre à plus tard. À la fois, ça nous angoisse.
Mais c'est ce qu'on disait dans l'émission. On a tendance à attendre 2049, finalement, pour s'en occuper.
Exactement. Donc, à la fois, ça nous angoisse parce qu'on se sent mis face à une deadline. Et en même temps, ça nous libère, ça nous désinhibe parce qu'on se dit, bon, en fait, c'est pas tout de suite.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de collègues qui sont assez critiques à l'égard de ces politiques comme ça, avec des dates butoirs, et qu'en fait, il faut parler du présent.
Allez, Pierre Charbonnier, vous êtes notre invité. Vous répondez également aux questions des auditeurs. Et puis, on verra quelles sont également les figures de la critique de la modernité. Par exemple, il y en a un certain nombre que vous citez dans cet ouvrage.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, Camille Crognier passe au vert.
Et dans l'eau aujourd'hui, je commence avec un classique du cinéma français à l'esprit tout à fait France Inter. J'ai nommé Brise de Nice qui attend sa vague.
Genre de vague qui ne te laisse pas le choix. Genre de vague que tu ne vois qu'une fois. Genre de vague que quand tu la vois, tu fais waouh.
Et c'est exactement de ce genre de vague dont je vous parle aujourd'hui tellement waouh qu'elle a fait s'emballer les médias.
It's being called the most extreme rogue wave on record. The probability of such an event occurring is once in a millennium.
Alors la télé canadienne annonce au large de Vancouver la rogue wave appelée vague scélérate en France, la plus extrême jamais enregistrée.
Ah bon ?
Le genre de truc qui n'arrive qu'une fois en 1000 ans, disait la journaliste. Une vague de 17,6 mètres enregistrée par des bouées en novembre 2020, mais qu'une étude parue dans la revue Nature n'a en quelque sorte validé, décortiqué qu'il y a quelques jours. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Alors vous allez me dire, 17,6 mètres et c'est la plus extrême, ils s'emportent un petit peu les mecs. Eh ben non, pas du tout, parce qu'on ne parle pas de la hauteur pure de la vague, mais de sa proportion par rapport aux autres vagues du coin. Et c'est là, pour cette vague-là, quasiment trois fois la hauteur moyenne des autres vagues. Principe donc des vagues scélérates. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de faire un petit tuto, tiens, avec un spécialiste en la matière, Christian Carif, professeur émérite en mécanique des fluides à Centrale Marseille. D'abord donc la définition.
C'est une vague dans la hauteur crête à creux, hauteur verticale, est supérieure à deux fois la hauteur significative des vagues. Alors qu'est-ce que c'est que la hauteur significative des vagues ? C'est la moyenne du tiers des vagues les plus hautes.
C'est-à-dire que si vous mesurez, par exemple, 300 vagues sur un même lieu, vous allez faire une moyenne des 100 les plus hautes et vous aurez donc la dite hauteur significative. Et les vagues scélérates font donc au moins le double et le triple même en ce qui concerne le Canada. Et si donc on les a appelées scélérates, c'est parce qu'elles ont un petit côté sournois, des vraies petites filoutes.
C'est des vagues qui surgissent comme ça, de nulle part, et qui disparaissent brutalement. Elles apparaissent une ou deux minutes, et puis après, on peut les disparaître.
Et ça, n'importe quand et n'importe où, ça peut même être le long des côtes ou au large, ce qui en fait la terreur des marins.
Il y a beaucoup de paquebots, de navires qui ont été coulés par ces grosses vagues, en fait, qui ont carrément brisé les bateaux. Alors maintenant, on fait des bateaux à double coque pour éviter effectivement ces naufrages.
C'est-à-dire qu'une vague comme ça, aussi courte...
En déferlant, oui.
Peut...
Oui, des bateaux de 300 mètres, de 200 mètres, oui, tout à fait.
Oh là là,
c'est une énergie colossale.
La pression peut être 10 fois plus élevée que celle d'autres vagues de la même hauteur. Et les marins ont eu beau les mentionner depuis un bail dans leur récit. Il a fallu attendre 1995 seulement pour documenter scientifiquement le phénomène avec la vague dite du Nouvel An. C'était en mer du Nord, vague qui a pu être mesurée quand elle a frappé une plateforme pétrolière. Presque 26 mètres quand la hauteur significative, vous vous souvenez donc la moyenne des plus hautes vagues alentour, était à 12 mètres. Donc là, ça faisait un petit peu plus de 2 fois plus haute. Et c'est à partir de là que les chercheurs ont commencé à comprendre les mécanismes de ces vagues scélérates, ce qui pousse en fait à ces vagues à surgir. Il y a plusieurs mécanismes. Le premier, les interactions avec les courants océaniques.
Quand vous avez des vagues en fait, qui sont générées en général par le vent et qui se propagent contre un courant, la vague va être empêchée de se propager et sa hauteur va augmenter. Et vous allez avoir formation d'une grosse vague qui va... effectivement, déferler.
Voilà, le courant fait un petit peu bouclier. Deuxième option, la houle qui fait un peu n'importe quoi, là, pour le coup, mais alors en science, ça s'appelle la focalisation géométrique.
C'est-à-dire qu'on peut avoir des trains de houle qui viennent de directions différentes et qui vont interagir dans une zone relativement restreinte de l'océan et former cette grosse vague.
Une concentration d'énergie dans une toute petite zone. Et puis enfin, troisième piste, alors là, ça s'appelle la focalisation spatio-temporelle avec le vent au cœur de la manœuvre.
Alors si vous imaginez par exemple que vous avez un vent qui va vous générer des vagues, disons, relativement courtes, et ensuite le vent va se mettre à forcir, il va générer des vagues qui vont être plus longues. Ces vagues plus longues vont se propager plus vite, elles vont rattraper des vagues plus courtes, et vous pouvez avoir une accumulation, un empilement de vagues en un point donné, en une zone donnée de l'océan.
Et le tout, donc, je le rappelle, en quelques secondes, hein, une ou deux minutes, hein, puisque ça reste une vague, donc ça redescend vite, et impossible à prévoir.
C'est ça la difficulté.
C'est la différence, par exemple, avec un tsunami ou avec des vagues immenses sur des sites connus. Je pense à celle de Nazaré au Portugal. Hein. Vous savez, chaque année, on voit les images des surfeurs sur ces monstres. Là, c'est en raison de la configuration du lieu. Il y a un canyon sous-marin, en l'occurrence, à Nazaré. Dernière question, ces vagues scélérates peuvent-elles être plus fréquentes à cause du dérèglement climatique? Christian Carif est catégorique.
Oui, en fait, puisqu'il y a de plus en plus de phénomènes extrêmes, et donc il y aura certainement de plus en plus de vagues extrêmes qui se formeront dans l'océan.
Il n'y a donc plus qu'à espérer que ça ne nous tombe pas dessus. Des personnes ont déjà été emportées, par exemple, à Taïwan, à terre, en se baladant en bord de mer. D'où l'importance de continuer à comprendre ces vagues scélérates pour essayer un jour, peut-être, de les anticiper, mais ce n'est pas encore gagné.
Et c'était Camille Passauvert que vous réécoutez, bien sûr, sur franceinter.fr.
Pierre Charbonnier, vous connaissiez les vagues scélérates?
Ah non, pas du tout, mais ça fait peur.
C'est impressionnant, hein. Attention quand vous vous baladez, même en bord de mer.
Et en bateau aussi, évidemment.
Camille Cronier et Pierre Charbonnier, on vous retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier.
Me ha dejado en vela, ya no puedo ni ver. pensar, la sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita, está su ambición en el pecho afilada, es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca.
La Fama, c'était Rosalia and the Weeknd.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter.
Pierre Charbonnier avec ce livre qui sort aujourd'hui aux presses de Sciences Po, Culture écologique. Alors vous revenez également sur la façon dont l'homme a voulu discipliner la nature tout au long de l'histoire. À partir de quand on peut dire qu'on est passé d'une exploitation de la nature à une surexploitation? Est-ce que c'est vraiment l'ère industrielle qui ouvre cette période ou pas?
Alors ça aussi, c'est un peu comme la question qu'on me posait tout à l'heure, c'est ça dépend du critère qu'on utilise pour faire la distinction. Il y a des exemples de relations pathologiques avec la nature qui sont très anciennes, qui sont documentées par l'archéologie. Il y a des exemples de pollution au plomb, par exemple, à l'époque de l'Empire romain. Bon, par contre, c'est vrai que l'idée d'une surexploitation systématique de ce bien qui pourtant est le plus précieux, qui est la source de notre reproduction physique et sociale. Ça, c'est vrai que c'est quand même caractéristique des sociétés industrielles et surtout caractéristique de sociétés en fait, qui développent la capacité à se rendre, on pourrait dire, activement insensibles à certaines des conséquences de leurs pratiques. C'est-à-dire, ça aussi, c'est ce que certains de mes collègues qui font l'histoire environnementale ont bien montré, dès qu'il y a des pollutions, dès qu'il y a des choix technologiques qui impliquent des retombées dangereuses, négatives, pathologiques, évidemment, il y a des gens qui le voient, il y a des gens qui en supportent les conséquences, qui l'expriment, et puis là, on se retrouve dans une situation, par exemple, les industries d'armement, les débuts de la chimie lourde, l'utilisation du plomb, ou même simplement les cheminées d'usine, en fait, quand elles ne sont pas construites assez haut. Et là, il y a l'émergence de ce qu'on pourrait appeler la gouvernance de la contestation. C'est-à-dire, soit on fait simplement taire les contestations pour permettre au profit de continuer à s'accumuler, soit on les encadre, on les régule, on leur trouve certains aboutissements. Par exemple, on construit des cheminées d'usine plus hautes, où on fait des zones de réserve pour l'écoulement des matériaux dangereux qui soient plus loin du voisinage des gens. Soit, et c'est une autre possibilité qui est, à mon avis, la plus intéressante, ce qui se produit en réalité, c'est qu'il y a une contradiction interne dans les aspirations collectives à la justice et au développement, c'est-à-dire que typiquement les communautés de travailleurs savent que ce qui est en jeu c'est leur emploi, donc leur salaire, la qualité de vie de leurs enfants, et ce qu'on leur dit en généralement c'est oui c'est très dur aujourd'hui, mais ça ira mieux demain. Parce qu'on va apprendre à réguler les risques environnementaux de la même manière qu'on va apprendre à encadrer les conditions de travail. Et donc, il y a un réglage entre les souffrances présentes et ce au nom de quoi on peut les endurer. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique absolument essentielle des mouvements ouvriers, tant sur le plan social que sur le plan environnemental, hein, d'accepter des retombées négatives au nom d'un bien futur.
Mais c'est ce qui se passe, pardon, aussi aujourd'hui, par exemple, sur le problème des éoliennes. On dit il faut des énergies renouvelables, mais ce qu'on entend souvent, c'est oui, mais pas à côté de chez moi. C'est un petit peu pareil.
On pourrait dire que c'est le côté tragique de la question environnementale en tant que question sociale. C'est-à-dire, on ne peut pas éliminer radicalement, idéalement, la pression écologique qu'on exerce sur notre milieu, de la même manière qu'il est difficile d'éliminer radicalement la souffrance au travail. Il faut le gouverner, il faut répartir de la manière la plus juste possible les risques. Voilà, c'est des arbitrages. Et typiquement, la question de la transition énergétique des fossiles aux renouvelables va de pair avec ce qu'on pourrait appeler un transfert de charge des pollutions typiques de l'industrie fossile vers d'autres types de pollution. Alors, il y a un petit peu de pollution visuelle pour l'éolien, mais il y a surtout de la pollution chimique dans les zones d'extraction du lithium, du cobalt, tous les matériaux, du graphite, tous les matériaux nécessaires pour faire des batteries, des éoliennes. Donc, il y a des gens qui en souffrent aussi. Mais le problème, c'est quels sont les choix de distribution des risques et des bénéfices à l'échelle nationale et surtout à l'échelle globale qu'on fait pour éviter quand même le gros du problème, qui est une crise totalement irréversible et totalement hors de contrôle du climat.
En tout cas, vous revenez sur toute l'histoire du capitalisme. Hein, où vous montrez bien justement qu'à partir de ce moment-là, ça exerce des pressions accrues à la fois sur la Terre, sur les systèmes écologiques et puis bien sûr sur les corps, hein, sur les humains et sur les travailleurs et les travailleuses. Hein.
Voilà, c'est ça. J'ai fait un des chapitres du livre pour répondre à cette question qu'on me pose souvent et qui est une question essentielle. Est-ce que le capitalisme est compatible avec les limites écologiques, en fait ? Et donc, c'est vrai que j'ai essayé de faire ce parallèle entre cette tendance qu'a le capitalisme d'épuiser ses ressources les plus essentielles, que sont d'un côté le travail, en fait les travailleurs, les travailleuses.
Et le sol.
Et puis le sol, la terre, les ressources. Et c'est vrai qu'on a cette dynamique comme ça, on sait que c'est dangereux, mais on outrepasse, qui est assez parallèle. Et c'est pour ça qu'il y a ce parallèle qu'il faut absolument faire entre question sociale et question environnementale.
Camille, des questions d'auditrices et d'auditeurs.
Bertrand revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur franceinter.fr. Le terme crise, dit-il, décrit une situation passagère. Nous sommes dans une dérive impossible de faire chemin inverse. Donc c'est peut-être ça aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre Charbonnier, c'est que c'est pas juste un événement comme une sorte de col en montagne qu'on va devoir passer pour redescendre derrière.
Non, mais c'est vrai que moi, le terme que j'aime bien, qui vient de la sociologie, c'est le terme d'épreuve. C'est-à-dire que c'est une conséquence de nos propres choix, de nos propres actions, mais qui nous oblige à les réviser. Vous voyez ? Donc ça, c'est interne à notre propre dynamique sociale historique. Et c'est vrai que le terme de crise peut donner l'impression que c'est passager. Non, effectivement, il est absolument essentiel de bien dire que désormais, un peu comme avec le Covid, c'est permanent. Nous ne vivrons plus jamais hors de la déstabilisation massive du climat.
Vous posez une question en tout début de votre livre, pour ouvrir votre livre. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'écologie ? La question, Pierre Charbonnier, est-ce que finalement, aujourd'hui, l'écologie, c'est un peu un chapitre, vous voyez, même là dans les médias, on parlait de l'absence de l'écologie. C'est une question qu'on va poser à la fin de l'interview, parce que ça vient derrière. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'il n'y ait même plus d'écologie, en fait, que ce soit juste dans tous les sujets, et qu'on arrête même d'étiqueter, entre guillemets, l'écologie à un certain domaine ?
Oui, c'est vrai qu'un des héritages de l'histoire sociale et politique de ces enjeux, c'est l'émergence de l'écologie, de l'environnementalisme, comme une question seconde. Vous voyez, il y a la question démocratique, de l'État de droit, il y a la question des relations internationales, et puis il y a aussi la question de l'écologie, et même politiquement, dans l'histoire de la vie politique française, l'environnementalisme a servi un peu de surcroît d'humanité au développement des politiques sociales libérales des dernières décennies.
Mais même aujourd'hui, on dit souvent, par exemple, il faudrait que le Premier ministre, si on prend juste l'exemple de la France, qu'il n'y ait pas de ministre de l'écologie, et que le Premier ministre, en fait, gère toute l'écologie.
Mais, alors, en réalité, on en est déjà là. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, vous regardez, oui, mais pas forcément pour le meilleur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez les grandes rivalités géopolitiques entre les blocs, États-Unis, Europe, Chine, Russie, elles sont indissociables de conflits pour des territoires, pour des ressources, pour de l'innovation technologique liée à la transition. Vous regardez le comportement des grandes organisations d'investisseurs, BlackRock par exemple, en fait, ils sont très soucieux de se présenter eux-mêmes comme des acteurs clés de la transition, de l'intériorisation par le capitalisme de la contrainte
écologique. Mais ça, c'est pour leur réputation, ça. C'est...
Non. C'est pour leur propre survie. C'est pas que pour leur réputation.
C'est le capitalisme vert, là, que vous décrivez.
De la même manière, les banques sont en train d'entreprendre des revirements de ce type-là. C'est-à-dire que, effectivement, la question écologique, climatique est intériorisée par de très nombreux acteurs politiques, et y compris et surtout par les acteurs les plus puissants, les plus dominants, ceux qui sont le plus en mesure, en fait, le plus en situation de vouloir sauver leur peau en intériorisant cette contrainte, et pas du tout en rendant possible une juste distribution des fardeaux et des opportunités.
Sauf qu'on est obligé de faire avec eux aussi aujourd'hui, finalement. Bah, on ne fera pas sans eux, on ne fera pas sans ces industries, par exemple.
Bah, ça, c'est un problème de rapport de force sociale. Donc, c'est pour ça que c'est la réponse que je donne à la question sur est-ce qu'il faut encore parler d'écologie ? Peut-être qu'effectivement, il ne faut plus parler d'écologie dans le sens où ça s'est tellement incorporé aux rapports de pouvoir qui sont dans les États, dans les structures qui guident l'orientation de l'investissement, en d'autres termes, du capitalisme, ça a été tellement absorbé, dissous, que peut-être, oui, les mouvements de contestation, de subversion sociale, économique, démocratique, doivent eux aussi fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire de rendre totalement indistinct, encore une fois, la question de la justice sociale, de l'équilibre démocratique, de ces questions liées aux ressources, à l'écologie et au vivant.
Est-ce que, Pierre Charbonnier, on a besoin de figures aujourd'hui, justement, précisément pour s'opposer aux problèmes qui se posent, pour être critique, finalement, de la modernité que nous vivons aujourd'hui, puisque vous en citez un certain nombre dans votre ouvrage, et finalement, ce qui manque un petit peu aujourd'hui, peut-être, c'est, en dehors des Greta Thunberg, c'est des figures très identifiables. Donc, il y a beaucoup d'organisations horizontales, ce qui est très bien aussi pour la démocratie, mais est-ce que c'est pas un problème, finalement? Où sont les Rachel Carson, les Gandhi, que vous citez, par exemple, dans votre livre aujourd'hui?
Bon, ça, c'est vrai.
Et est-ce qu'on en a besoin?
Je ne sais pas si on en a besoin. En tout cas, force est de constater qu'un des paradoxes intéressants du mouvement social, du mouvement de conquête des droits politiques et sociaux, historiquement, c'est le fait que ça tienne ensemble la revendication d'une cause collective, massive, et la mise en avant de personnalités politiques extrêmement glorieuse, type Lénine, vous voyez, même sans aller jusque-là, dans l'histoire du socialisme français, l'influence personnelle de Jaurès, de Blum, est structurante, en fait, pour incarner une coalition d'intérêts qui sont en partie divergents, mais qui surmontent leurs divergences parce qu'elles se mettent, à la remorque d'une personnalité qui incarne quelque chose.
Et alors, dans l'écologie,
vrai que ça, on l'a pas... Pour une raison essentielle, qui est le désajustement entre la question écologique et la question nationale, précisément. C'est pour ça que, historiquement, la question sociale a trouvé un allié avec la question nationale. Ça donnait un ferment, ça donnait une énergie, ça permet de se brancher sur des passions collectives liées à la culture commune, à une expérience effectivement partagée par les gens.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de figure mondiale, en fait.
Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait une figure mondiale, ou est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, c'est l'autre possibilité, qu'il faudrait réinscrire la cause écologique dans un renouveau de passion politique à l'échelle nationale? Moi, je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que ces figures, on ne les a pas.
Alors, on va écouter. Tiens, pour le plaisir, une des grandes voix américaines, justement, de l'environnementalisme, c'est Rachel Carson, la biologiste, que va nous traduire Camille, dans un film de Tamara Herd qui était diffusé sur Arte, qui s'appelle Rachel Carson, la mère de l'écologie.
L'équilibre de la nature repose sur une série d'interrelations entre les êtres vivants et entre les êtres vivants et leur environnement. On ne peut pas simplement intervenir par la force pour changer une chose sans en changer bien d'autres.
Voilà, et les oiseaux, évidemment, en relation avec le printemps silencieux de Rachel Carson. C'est une des figures que vous citez, hein, Pierre Charbonnier, et qui a évidemment marqué son époque dans les années 60, période très particulière à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à une époque justement où la nature avait du mal à s'imposer aussi dans les préoccupations de la population internationale, hein, quand même.
Alors, la figure de Carson est effectivement très intéressante, mais ça permet de réfléchir aussi à cette question sur les grandes figures, les leaders, en fait, de l'écologie. Vous voyez, par exemple, dans l'histoire des États-Unis, dans les années 10-20, au tout début du XXe siècle, le président Roosevelt, Theodore, se fait prendre en photo avec de grands promoteurs de l'écologie, en particulier John Muir, pour la promotion des parcs naturels, pour la promotion d'un usage efficace et économe des ressources. Et en fait, aux États-Unis et dans d'autres pays d'ailleurs, la question de la nature, des ressources, des paysages, du patrimoine fait partie intégrante de la construction du récit national. Pour le coup, là, il y a un lien entre, on peut dire, nationalisme ou même quasiment récit identitaire et nature. Alors, d'une certaine manière, pour le mieux, mais il y avait un côté vraiment aussi impérialiste, voire racialiste de toute cette histoire-là. Est-ce qu'on veut vraiment qu'émergent aujourd'hui des grandes figures comme ça, héroïques, dominantes, qui vont dire « je vais défendre la Terre » Parce que qu'est-ce qui va se passer peut-être si on a ça? C'est qu'ils vont dire « je vais défendre la Terre pour nous les Français, par exemple. » Ou pour nous les Tigrecs. Donc vous voyez, il y a ce problème-là aussi. Et plus on attend, c'est-à-dire que plus on attend pour que la question de la Terre soit aussi la question de la démocratie, de la justice sociale, plus on a de chance que les personnalités, que les leaders qui vont s'élever pour tenir ce discours soient aussi celles qui vont en fait organiser les canaux de sauvetage pour quelques groupes privilégiés.
Vous pensez à Don't Look Up? Vous pensez à la fin du film Don't Look Up?
Je pense, non, je pensais pas spécialement au film, parce qu'en réalité, c'est ce qui est déjà en train de se produire dans certains mouvements politiques, identitaires, nationalistes, suprématistes. Ça existe déjà.
Pierre Charbonnier, encore pendant quelques minutes, l'invité de la Terre au Carré. Voilà, de Morane à Pierre Charbonnier, c'est la Terre au Carré, culture écologique, c'est aux presses de Sciences Po. Pierre Charbonnier, pour parler quand même d'aujourd'hui et de l'avenir, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, hein, évidemment, avec la crise écologique, qui vont nécessiter, et ça on le sent bien aussi, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, de nouveaux comportements, de nouvelles éthiques, de nouvelles formes de responsabilité aussi et d'obligations. Et ça, c'est compliqué pour une société de remettre tout ça en cause, non?
Ce qui est curieux, c'est que ça a l'air très compliqué. Et ça l'est, effectivement. Et pourtant, quand on regarde un peu l'histoire, c'est absolument évident que la construction de la citoyenneté s'est jamais faite autrement que par des sacrifices, ce serait peut-être un mot un petit peu abusif, mais
des grosses mutations, quand
des
même,
compromis, hein. C'est-à-dire l'intériorisation d'un surmoi social, accepter de participer à des institutions un petit peu contraignantes qui nous donnent, par exemple, qui nous donnent de l'éducation, de la santé, mais qui demandent en retour certaines formes d'obéissance, de conformité. En fait, c'est difficile de construire de la citoyenneté autrement que ça. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire il y a une nouvelle vague historique de constitution de citoyenneté, de moralité sociale, liée à l'intégration de ces normes-là? Moi, ça me paraît assez évident que c'est nécessaire, Mais c'est vrai qu'il y a, il y a une vraie réticence, il y a une vraie résistance. Donc encore une fois, ce qu'il faut espérer, c'est que on ne fasse pas les choses à la va-vite au dernier moment devant des catastrophes absolument énormes et que ça prenne une forme autoritaire, vertical. C'est ça aussi, c'est une question de temps, vous voyez.
Il y a plein de domaines que vous citez et qui sont en première ligne, comme l'agriculture, par exemple, qui représente un vrai lieu de mutation totalement impérative.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi être attentif au lieu où s'élaborent ces choses.
Merci Pierre Charbonnier d'être venu nous parler de ce livre qui paraît donc aujourd'hui, s'appelle Culture écologique et c'est aux presses de Sciences Po.